11h sur Radio Campus Tours, auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons du projet de loi Falorni. Le 27 mai 2025, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture par 300 voix pour, 199 voix contre et 57 abstentions, une proposition de loi qui crée un droit à l'aide à mourir. Cette loi concernerait les malades majeurs, condamnés par une affection grave et qui en ont exprimé la demande sous certaines conditions. Plus de 2600 amendements avaient été déposés. Le Sénat examinera le texte à l'automne 2025. En mai dernier, je reçois un communiqué de presse. Je cite « Des soignants en santé mentale s'opposent à la légalisation de la mort assistée ». Sur le site de l'Appel des psys, on lit ceci. Je cite « La proposition de loi Falorni, examinée à partir du 12 mai, veut permettre à des personnes présentant une souffrance psychologique de programmer leur mort. C'est une capitulation, pas une compassion. Nous, psychologues, psychiatres et psychothérapeutes, refusons de devenir les témoins impuissants d'un système qui renonce à soigner, à accompagner, qui abandonne en somme. Chaque jour, nous luttons pour redonner espoir à ceux que le désespoir submerge. Et nous savons que la souffrance psychique n'épargne personne, surtout pas les personnes fragilisées par l'âge, l'isolement ou la maladie. Valider la mort comme réponse à cette souffrance psychique, c'est trahir nos patients, c'est inciter au suicide, c'est piétiner nos efforts, nos engagements et nos valeurs. Nous disons non, sans compromis. Je lisais un texte publié sur le site L'Appel des psys. Mais qu'en disent les médecins de Tours et les équipes de soins palliatifs, vers qui se tournent les médecins généralistes pour avoir des éléments de réponse, pour faire face à un patient qui aurait cette demande? Pour quelle raison un patient peut-il avoir ce souhait de mettre fin à ses jours, ou en tout cas de hâter sa mort? Est-ce les mêmes en soins palliatifs et en psychiatrie? Pour discuter du projet de loi Falorni et de ses implications pour les professionnels de santé, deux invités dans le studio aujourd'hui, le docteur François Chaumier, médecin responsable équipe mobile de soins palliatifs 37 au CHRU de Tours, membre de l'équipe mixte de recherche INSERM-SPHERE, le professeur Vincent Camus, de la clinique psychiatrique universitaire au CHRU de Tours, membre de l'équipe mixte de recherche INSERM-IBRAIN et coordinateur régional du DES de psychiatrie. Deux regards différents et complémentaires, celui d'un psychiatre et des pathologies mentales, celui de soins palliatifs, plus souvent dans le cadre des pathologies somatiques. Cette émission est en deux parties, que vous retrouverez sur notre site radiocampustours.com. Première partie. Alors peut-être avant d'échanger sur ce projet de loi, il me semble intéressant de rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices peut-être les réalités et le champ d'action d'un psychiatre et d'un médecin dans une équipe mobile en soins palliatifs, donc pour aller au-delà des clichés du médecin des fous et du médecin des mourants. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs pour expliquer quelle est votre réalité professionnelle?
Je commence. Alors, donc médecin de soins palliatifs dans une équipe mobile.
François Chaumier.
C'est déjà travailler en pluridisciplinarité, c'est-à-dire travailler avec une équipe constituée d'infirmières, de psychologues, d'assistantes sociales, parfois d'ergothérapeutes, de psychomotriciennes. Et puis, le principe ou la spécificité d'une équipe mobile, c'est de venir en appui ou en soutien aux professionnels de santé qui prennent en charge des patients atteints de maladies graves, incurables, qui menacent le pronostic vital à terme, et puis qui sont responsables soit d'une altération de la qualité de vie, soit de souffrances physiques, psychiques ou sociales dans la vie du patient. Et donc le travail de l'équipe mobile, c'est de venir évaluer une situation en rencontrant un patient et ses proches, en rencontrant les équipes de soins qui le prennent en charge et qui les accompagnent. Et puis sur une problématique donnée ou sur une vision d'ensemble, apporter des éléments de repère, apporter des propositions parfois thérapeutiques pour soulager la personne. Et puis tout un travail de collaboration et de coordination entre la ville, l'hôpital, puisqu'on intervient au CHU et à domicile, en établissements médico-sociaux et en EHPAD. Et donc c'est tout le travail de coordonner la prise en charge d'une personne en situation palliative autour des acteurs et des professionnels de santé qui prennent en charge ces situations.
Pour décrire le travail du médecin psychiatre, qu'est-ce que c'est un médecin psychiatre ?
Vincent Camus.
C'est un médecin qui prend en charge, en fait, qui accompagne des personnes qui souffrent de pathologies mentales, de troubles psychiatriques. Alors c'est vrai qu'on a un regard parfois un peu faussé sur ce que c'est que la pathologie psychiatrique. En fait, il y a un grand nombre, une très grande diversité en fait, des pathologies prises en charge par les équipes de psychiatrie. Certaines sont des pathologies, relativement brèves. Hein. On peut penser à certaines pathologies dépressives ou certains troubles anxieux, certains troubles de l'adaptation. Et puis certaines de ces pathologies sont des pathologies, plutôt des pathologies chroniques. On peut penser par exemple les pathologies du spectre de la schizophrénie ou de certains troubles de l'humeur comme les troubles bipolaires par exemple. Du coup, le travail des équipes de psychiatrie, alors les psychiatres et les équipes qui les entourent, hein, souvent d'autres professionnels comme les infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux, etc., c'est effectivement d'accompagner les personnes qui souffrent de ces pathologies. Alors l'essentiel des personnes qui sont suivies dans des dispositifs de psychiatrie, notamment publics, le sont sur des dispositifs ambulatoires, en fait. Hein. C'est vrai qu'on a une image de l'histoire de la psychiatrie qui est très liée à l'asile psychiatrique, qui était en fait un lieu de soins et de vie des personnes souffrant de pathologies graves, notamment à une époque où il n'y avait pas vraiment de traitement efficace. Mais évidemment, aujourd'hui, les dispositifs de soins psychiatriques sont essentiellement des dispositifs de soins ambulatoires, avec parfois des dispositifs d'accompagnement de soins séquentiels de jour, d'hôpitaux de jour, etc. Mais l'image qu'on a encore de l'hôpital psychiatrique, de l'asile psychiatrique, évidemment, est une image bien périmée du 19e ou du 20e siècle. Aujourd'hui, le temps du soin en l'hospitalisation complète est extrêmement réduit dans le parcours de soins de la personne, notamment si elle souffre d'une pathologie ponctuelle, aiguë, et qui va être prise en charge, traitée, et puis qui ne va jamais réapparaître dans l'histoire du sujet, ou alors si la personne souffre d'une pathologie récurrente ou chronique, évidemment, l'hospitalisation peut intervenir parfois dans son parcours, mais c'est en fait un temps extrêmement limité, et l'essentiel des soins étant dispensé sur un mode tout à fait ambulatoire, l'idée étant bien sûr d'avoir des dispositifs de soins qui sont le plus proche possible des lieux de vie des patients dans la cité, dans la communauté.
Je rebondis sur l'image qu'on pouvait avoir sur la population atteinte de pathologies psychiatriques et puis sur les lieux de prise en charge.
François Chaumier.
C'est un peu la même chose autour des représentations qu'on peut avoir des soins palliatifs ou des personnes en soins palliatifs. On imagine beaucoup les mouroirs ou les services hospitaliers avec les mourants. Aujourd'hui, je rappelle que la définition des soins palliatifs ou des situations palliatives, c'est donc ces pathologies graves incurables pouvant menacer le pronostic vital avec des situations qui sont certes graves à un instant T, parfois dans la durée, mais aujourd'hui ce qui est mis en avant, c'est une démarche palliative très précoce et anticipée avec des patients qu'on considère en situation palliative et avec pour autant des espérances de vie qui sont de plusieurs mois ou de plusieurs années. Je pense notamment à la question de la pathologie cancéreuse. Hein. Aujourd'hui, le cancer, quand il a déjà des métastases ou qu'il a déjà été capable de récidiver ou rechuter, aujourd'hui, il y a de nombreux traitements pour lutter contre le cancer, mais non pas pour guérir la personne du cancer, mais pour ralentir l'évolution de la maladie et limiter la progression de celle-ci et les conséquences, notamment en termes de symptômes. Et donc, on a des personnes avec des espérances de vie de plusieurs mois ou de plusieurs années. Et pour autant, elles sont considérées comme en situation palliative, puisqu'on ne va pas les guérir de leur maladie et qu'elles finiront un jour par mourir de leur maladie. C'est aussi le cas des insuffisances qu'on appelle les insuffisances d'organes, c'est-à-dire les insuffisances cardiaques, les insuffisances respiratoires, les insuffisances hépatiques, au-delà d'un certain âge où la transplantation n'est pas envisageable. On a des espérances de vie pareilles, de plusieurs mois, de plusieurs années, et pour autant, on ne guérira pas ces patients et ils finiront probablement par mourir de leur maladie. Et donc, on parle de situation palliative alors que le pronostic est encore à long terme. Donc, c'est essentiellement des patients qui vivent chez eux et qui passent par l'hôpital lors de décompensations ou de complications aiguës, qui rencontrent des acteurs de soins palliatifs parfois dans leur parcours, mais qui, la plupart du temps, sont à la maison et pris en charge par leurs soignants de proximité, médecins généralistes, infirmiers libéraux, psychologues, SIAD et auxiliaires de vie. Donc, c'est vrai qu'on est loin du couloir de la mort.
Alors pour rebondir sur ce que vient de dire François Chaumier, en psychiatrie, on a aussi un concept sur lequel on s'appuie beaucoup, notamment pour décrire notre travail dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de pathologies chroniques comme la schizophrénie ou certaines formes de troubles bipolaires, etc.
Vincent Camus.
Notamment, c'est le modèle du rétablissement, qui est un modèle un peu iconoclaste en médecine, puisque c'est vrai que la médecine triomphante, on pourrait dire, le modèle de médecine triomphante, c'est quand même guérir la maladie, voilà, et puis abraser ou faire disparaître tous les symptômes. En fait, l'approche en rétablissement, réhabilitation et rétablissement, c'est une approche un peu différente, très centrée d'ailleurs sur les expériences patients et les demandes patients. Qu'est-ce que demandent les patients? Parfois, ils ne demandent pas qu'on éteigne complètement leurs symptômes, en fait. Ils veulent retrouver un niveau de fonctionnement social, familial, professionnel, satisfaisant. Étant entendu que d'ailleurs, qui peut dire le niveau satisfaisant pour eux, si ce n'est eux-mêmes, en fait, d'accord ? Alors qu'on a souvent une approche médicale très normative, dont les normes sont d'ailleurs établies essentiellement par les professionnels et par les médecins, d'accord ? Et c'est vrai qu'en psychiatrie, du coup, l'approche du rétablissement, elle va plutôt accepter l'idée qu'il peut rester les symptômes résiduels, dans la mesure où si le patient considère qu'ils ne sont pas gênants et que, bon, socialement, ils sont tolérables et ne posent pas de problème au patient ou à son entourage, on peut supporter l'idée que certains symptômes de la maladie restent persistants et présents. Par contre, on va beaucoup centrer nos interventions dans la maladie chronique, hein, l'intervention maladie chronique, sur l'impact potentiel de la maladie sur le fonctionnement du sujet. Et donc avec des approches de réhabilitation qui vont cibler les objectifs d'améliorer le fonctionnement quotidien en fait, du sujet dans sa vie quotidienne. En fait. Et donc c'est vrai que c'est des modèles, en fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes termes que dans les soins palliatifs, mais c'est quand même un peu la même idée. C'est en ce sens que peut-être nos deux disciplines sont un peu iconoclastes dans le champ de la médecine et qu'elles portent probablement un regard, un discours et des pratiques un peu différentes de bien des pratiques de nos collègues d'autres disciplines. Je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse, bien sûr, de nos systèmes de santé, que de pouvoir justement faire cohabiter ces différentes approches qui vont concerner évidemment des patients différents à différents temps de leur existence.
Je rejoins tout à fait ce que dit Vincent Camus, c'est-à-dire que en situation palliative notamment avancée,
François Chaumier,
il est vrai que notre objectif ne va pas être, par exemple, de supprimer toute douleur ou de supprimer toute souffrance, mais que l'objectif, c'est que les soignants ou les professionnels qui vont intervenir vont proposer permettent à la personne d'atteindre un niveau acceptable de symptômes ou autres, mais en tout cas pour lui permettre de s'adapter à une condition de vie impactée par la maladie et qui lui rende sa vie quotidienne acceptable. Et donc c'est vrai qu'on va être beaucoup dans une personnalisation de la prise en charge, une prise en compte des préférences, une individualisation des propositions, parce que d'un patient à un autre, avec la même pathologie, ce qui peut être acceptable pour l'un ne va pas l'être pour l'autre, et puis le seuil de tolérance ne va pas être le même d'un patient à l'autre. Voilà, donc c'est là où on se rejoint aussi, c'est dans une prise en charge très personnalisée.
Et alors, si je peux rebondir aussi sur ce qu'on parlait, la description du travail du psychiatre et du lien aussi avec le thème que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui.
Vincent Camus.
Pourquoi est-ce que les psychiatres sont concernés finalement par l'évolution du cadre légal et réglementaire sur la fin de vie? Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que... Enfin, on pourrait dire trois raisons d'ailleurs. Mais la première, c'est que les psychiatres sont vraiment... les équipes de psychiatrie sont les équipes directement impliquées dans la prise en charge des personnes suicidantes, des personnes qui ont commis un geste suicidaire. Et on sait, des données épidémiologiques très robustes, scientifiques très robustes, que en fait, le geste suicidaire est souvent le symptôme, alors soit d'une souffrance psychique temporaire, ponctuelle, ou d'une détresse psychosociale temporaire, soit, je dirais, on pourrait dire, l'aboutissement ultime de l'évolution d'une maladie psychiatrique sévère, grave, qui, si elle n'est pas traitée, va entraîner une souffrance tellement insupportable que la seule issue envisageable par le patient est de mettre fin à ses jours pour soulager un niveau de souffrance psychique très important. Et évidemment, une partie du travail des psychiatres est de prévenir, bien sûr, tout geste suicidaire chez des gens qui souffrent de maladies dont on sait qu'elles exposent à un risque élevé de passage à l'acte suicidaire. C'est le cas de maladies comme la schizophrénie, comme les troubles du comportement alimentaire, comme les troubles dépressifs ou les troubles bipolaires, etc. etc. Et puis les psychiatres sont aussi présents dans les services d'urgence, de tous les services d'urgence, pour évaluer systématiquement toute personne qui est admise dans un service d'urgence et qui a fait un geste suicidaire non fatal, évidemment. Parce que la question qui se pose, c'est un, est-ce qu'il y a un risque de réitération d'un tel geste qui met en danger la personne ? Et est-ce qu'on peut identifier chez cette personne qui a fait ce geste suicidaire une pathologie psychiatrique qui serait curable ? Pour lequel on pourrait apporter des stratégies d'intervention, de traitement, de soulagement de la personne qui lui éviterait le risque de se remettre en danger du fait de sa pathologie. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle nous, psychiatres, on est évidemment très concernés par tout ce qui touche à la question du suicide, et notamment puisqu'il y a un volet dans le projet de loi d'assistance au suicide, évidemment. C'est une question quand même qui n'est pas triviale, qui n'est pas simple. Enfin, finalement, comme psychiatre demain, on peut être sollicité pour évaluer une personne qui a des idées suicidaires, une intentionnalité suicidaire, qui n'est pas toujours d'ailleurs une intentionnalité de mourir. On pourra revenir un peu dans le détail. Comment on évalue l'intensité, la qualité, l'intensité de mourir ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette intention affichée du patient ? Donc ça, c'est un premier point sur l'intervention des équipes de psychiatrie en termes de prévention du suicide et d'évaluation des personnes suicidant. Autant vous dire que, le volet création d'un délit d'entrave tel qu'il apparaît dans la première mouture de la loi, qui ne sera probablement pas la mouture définitive, mais évidemment ouvre des questions, enfin des abîmes de perplexité, chez les professionnels que nous sommes, puisque, évidemment, nous, psychiatres, notre boulot, une partie de notre boulot, c'est quand même de prévenir que les personnes qui ont émis le souhait de faire un geste suicidaire le commettent. Évidemment, si demain, on peut opposer au psychiatre, dans son travail, le fait qu'il serait, lui serait opposable un délit d'entrave, un projet suicidaire, sans tomber dans la caricature, ça ne va quand même pas de soi, quoi qu'on nous en dise. Et ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est que la commission parlementaire qui a présidé quand même à la rédaction de cette loi et a entendu de nombreux acteurs de la société, de nombreux professionnels de santé, des représentants de nombreuses disciplines médicales, dont les soins palliatifs, la gériatrie, la neurologie, etc. Les seuls qui n'ont pas été entendus, ce n'est pas faute de nous être manifestés auprès d'ailleurs des politiques, c'était les psychiatres. Et c'est quand même très très étrange et très troublant et très inquiétant aussi d'ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, et vous avez certainement vu passer un certain nombre de psychiatres et de professionnels de la santé mentale qui ont quand même émis à divers degrés, sous des termes un peu variés, qui reflètent tout à fait d'ailleurs la grande hétérogénéité et variabilité des sensibilités de notre profession. Mais quand même, beaucoup d'entre elles ont émis quand même de grandes réserves sur le projet de loi. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Après, le deuxième point pour lequel, effectivement, nous, psychiatres, dans notre exercice, on est aussi concernés par cette question, c'est que, je ne l'ai pas dit là dans ma présentation de ce que c'est le travail d'un psychiatre, mais certains d'entre nous avons aussi un exercice de la psychiatrie en interface avec les autres spécialités médicales. C'est ce qu'on appelle, en fait, les dispositifs de psychiatrie de liaison, c'est-à-dire quand une personne est hospitalisée dans un service de chirurgie, dans un service de médecine interne, d'infectiologie, de gériatrie, etc. Parfois, les équipes médicales qui prennent en charge les patients dans ces services peuvent avoir besoin d'un avis psychiatrique pour des patients qui sont pris en charge dans leur dispositif de soins. Et effectivement, comme psychiatre intervenant dans les services d'autres disciplines médicales, y compris d'ailleurs les soins palliatifs, évidemment, ces questions de la demande de la souffrance psychique, du repérage et de la prise en charge des symptômes anxieux ou dépressifs qui naturellement peuvent émerger dans le parcours de vie d'une personne qui souffre d'une maladie grave, dont on vient d'annoncer qu'elle est incurable, à qui on vient d'annoncer que les dernières lignes de traitement curatif sont maintenant dépassées et qu'on doit changer la perspective, etc. Évidemment, c'est aussi une part de notre travail importante et qui demande aussi, je dirais, une approche clinique un peu spécifique, mais qui, nous rend très sensibles aussi à cette question de l'évaluation de l'intentionnalité de mourir chez des personnes qui sont dans des problématiques de pathologie somatique grave, terminale, etc. Et c'est à ce titre-là qu'il nous semble aussi que, comme professionnel de la psychiatrie, on peut avoir aussi des choses à apporter au débat. Pour autant que, bien sûr, les décideurs politiques veuillent bien l'entendre, mais ça ne nous empêche pas de nous exprimer. Je vous remercie d'ailleurs de nous donner l'occasion de le faire à votre micro.
Merci. Alors, du côté soins palliatifs et du côté psychiatrie, où est-ce qu'on met la douleur existentielle? Est-ce que ça, c'est quelque part dans le DSM ou dans la CIM?
Dans la définition des soins palliatifs et notamment dans les missions que portent les acteurs de soins palliatifs, effectivement,
François Chaumier.
La mission principale, c'est de soulager les souffrances, et que ce soit dans le texte de loi ou dans les définitions internationales ou l'HAS ou l'OMS, les souffrances dont on parle, c'est des souffrances qui sont physiques, qui sont psychiques, qui sont sociales et qui sont spirituelles. Alors le spirituel dans le système de santé français, il est parfois assimilé au religieux, donc du coup il est assez peu travaillé, alors que la question du spirituel, elle va au-delà de la religiosité, c'est la question du sens, c'est la question des valeurs, c'est la question de la philosophie, c'est la question existentielle. Dans la littérature, on retrouve des parallèles, en tout cas, entre la souffrance spirituelle et la souffrance existentielle. C'est un sujet qui est très débattu dans la communauté médicale, c'est-à-dire, est-ce que la souffrance existentielle, la question du sens de la vie, est-ce que c'est quelque chose qui concerne la médecine, ou est-ce que ça concerne la philosophie, ou est-ce que ça concerne l'anthropologie, est-ce que ça concerne la sociologie, est-ce que c'est pas inhérent à la nature humaine de se poser des questions sur le sens de sa vie? Et donc, du coup, est-ce à la médecine de soulager, par notamment des moyens médicamenteux, une souffrance existentielle? Donc ça, il faut quand même savoir que ça fait débat dans la communauté médicale. Et pour certains auteurs, pour certains cliniciens, effectivement, les acteurs de soins palliatifs ont leur place à jouer dans cette question-là, mais c'est beaucoup plus large que les acteurs de santé. C'est aussi le regard de la société sur l'être vulnérable ou l'être fragile ou l'être malade. C'est le regard des communautés citoyennes ou familiales vis-à-vis de nos sujets âgés, de nos personnes handicapées, etc. Donc c'est vraiment un champ qui est beaucoup plus vaste que celui du champ du soin, pour moi.
Voilà, ça c'est une question très, très difficile, évidemment, et évidemment pour lequel le psychiatre aussi peut se trouver un peu en difficulté. Alors, je vous donnerai un peu ma vision un peu personnelle des choses. Je pense néanmoins que la psychiatrie, c'est une discipline clinique dans laquelle les diagnostics reposent sur quand même, disons, des critères diagnostiques assez robustes qui sont communément partagés. Et finalement, même si il peut être difficile parfois de faire la distinction entre le normal et le pathologique, globalement, on a quand même des seuils, je dirais, de repérage, on pourrait dire, des symptômes qui sont cliniquement significatifs et qui orientent vers un diagnostic de pathologie, qui sont assez clairs et qui ne font pas trop débat. Et à la limite, par rapport, je dirais, à la souffrance existentielle, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, elle est assez inhérente à la condition humaine et au fonctionnement psychique plutôt normal. Voilà. Et que l'entreprise de la psychiatrie n'est pas de faire disparaître, mais plutôt de considérer que la souffrance existentielle, c'est plutôt un signe de bonne santé mentale, de bonne santé psychique. Voilà. C'est un peu ce que, voilà, en d'autres temps, peut-être, on aurait considéré sous la problématique un peu névrotico-normale du fonctionnement psychique. C'est-à-dire, on a tous, les uns les autres, pour autant qu'on soit suffisamment bien construit, ce qui n'est pas donné à tous, hein, les hasard de la vie et l'adversité peut faire que pour certains, ça peut être plus difficile. Mais globalement, on a tous, je dirais, à se débattre et à s'accommoder c'est une souffrance existentielle qui est irréductible, en fait. Hein. Et il ne s'agit pas du tout, effectivement, de la pathologiser ou de la médicaliser. Et que, voilà, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait entretenir, d'ailleurs. Ça a été quand même extrêmement fécond sur le plan artistique au 19e siècle, on pourrait dire. Et puis au 20e, ça prend d'autres formes, probablement au 21e siècle aussi. Mais c'est probablement un moteur aussi du fonctionnement et individuel et social. Voilà, donc qui convient de respecter pour ce qu'il est, quoi.
Dans le champ de la maladie grave évolutive avec la perspective de la mort proche, j'ai le sentiment quand même que cette question de la souffrance existentielle, en tout cas, elle vient nous percuter en tant que soignant quand elle envahit la personne au point que l'ensemble des autres dimensions de la personne ne peuvent plus se vivre. C'est-à-dire que quand la perte de sens est souvent, en tout cas quand on regarde un peu la littérature scientifique sur le sujet, hein, la perte de sens dans le contexte de pathologie palliative avec un pronostic vital engagé et une maladie évolutive incurable, cette perte de sens, ou en tout cas cette détresse, elle est quand même très souvent corrélée au sentiment d'être un fardeau pour les autres, donc c'est quand même très interrogant. Elle est très souvent corrélée à la question de l'autonomie fonctionnelle au sens de l'autonomie physique, et non pas forcément de l'autonomie décisionnelle ou de l'autonomie de pensée. Donc la question de la peur également. La peur de l'inconnu, l'angoisse du mourir, la question du handicap dans nos sociétés occidentales, il ne faut pas le négliger, est source de parfois grande détresse avec des patients qui ont parfois du mal à s'adapter à une nouvelle condition physique liée à l'évolution de leur maladie. Donc c'est vrai que cette question de la détresse existentielle, elle est inhérente à la personne humaine. L'idée n'est pas de pathologiser ou de rendre anormal tout questionnement autour du sens de sa vie, ou y compris les émotions comme l'angoisse, l'anxiété, la peur. C'est normal d'avoir peur de mourir ou d'avoir peur de souffrir. La question, c'est comment ces symptômes ou ces questionnements ou cette détresse, comment tout cela envahit la personne au point que la poursuite de son existence dans les conditions telles qu'il les vit à un instant T lui semble insurmontable, quoi. Et ça, c'est des situations très très singulières et quand même assez exceptionnelles.
Alors vous avez dit l'un et l'autre, voilà, vous accompagnez des maladies dans certains cas dont on ne guérit pas, voilà, qu'on vise l'acceptable aussi dans le quotidien du patient. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des médecines de la consolation?
Médecine de la consolation, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on tend à soutenir et à accompagner les personnes et leurs proches à vivre de la manière la moins mauvaise possible, ou en tout cas de la meilleure manière possible, la maladie et ses conséquences sur le cours de leur existence, en cherchant à en atténuer au maximum les conséquences sur le champ physique, psychique, familial, etc. Donc on est peut-être plus dans la question de s'adapter, d'accepter, consoler, je ne sais pas. Je ne m'y serais pas forcément retrouvé.
Je trouve votre proposition assez jolie, assez beau, touchante. Ouais. Ouais. Mais d'un autre côté, elle sous-entend...
C'est déjà quelque chose.
elle sous-entendrait que peut-être la condition du malade serait triste.
Ouais.
Et qu'il faudrait en être consolé. Or, ça peut être le cas surtout en début de maladie, quand on est percuté par une annonce d'un diagnostic sur lequel on peut avoir des représentations très négatives, se voir annoncer une maladie grave, chronique, que ce soit une schizophrénie, que ce soit un diabète insulino-dépendant, que ce soit une polyarthrite rhumatoïde, vient toujours initier une espèce de travail de deuil, en fait, de perte de quelque chose. Et en ce sens, on pourrait vous retrouver dans l'idée que peut-être quelque part, ce travail de deuil, ça peut avoir affaire avec quelque chose de l'ordre de la consolation, que je trouverais assez joli, je trouve, de le formuler comme ça. Cela dit, je pense que ça ne concerne pas tous les patients et pas tous les temps d'évolution du patient. C'est-à-dire que je pense que, justement, une partie du travail, notamment en psychiatrie, on a beaucoup travailler ces stratégies d'accompagnement des personnes autour de programmes d'information, d'éducation. Alors, j'aime pas trop le terme, mais d'éducation thérapeutique ou d'information sur la maladie, d'information donnée aussi aux proches sur la maladie de leurs proches. L'idée étant justement de redonner un petit peu le pouvoir aux patients sur leur destin et sur leur maladie, en fait. Et en ce sens, on est un peu au-delà, on n'est plus tout à fait dans la consolation, je pense, quand on est dans ce travail-là. Voilà, donc je nuance votre propos, mais je reprendrai bien votre formule quand même si je la trouve belle.
Ben, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission. On se penchera ensuite sur les textes de loi, donc ceux qui existaient avant la loi Falorni et cette fameuse loi Falorni. Alors pour rester dans le thème, on va écouter La Folie. Voilà, ça vient de Platé, qui est écrit par Rameau. Et là, ça va être la version chantée par Mireille Delunch. Allez, on écoute ça sur Radio Campus Tour.
Ooh.
Pause musicale, donc c'était La Folie, Platé, Rameau, et nous revenons dans ce studio avec nos deux invités, François Chaumier et Vincent Camus. Donc nous allons parler des lois qui accompagnent la fin de vie en France. Donc pour rappel, il y en a déjà deux, donc la loi Leonetti de 2005, là où il est dit que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, je cite, et cette loi prévoit aussi la rédaction des directives anticipées. Il y a aussi la loi Claeys-Leonetti de 2016. Donc là, il est question d'une fin digne et apaisée. Voilà, cette loi, je crois, autorise aussi la sédation profonde et continue si un patient s'il est atteint d'une maladie grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Alors peut-être déjà, qu'est-ce que vous aimeriez dire l'un et l'autre de ces deux lois? Est-ce qu'elles régissent déjà votre pratique? Et finalement, à quoi bon cette nouvelle loi Falorni?
Alors effectivement, en tout cas en ce qui concerne les acteurs de soins palliatifs,
François Chaumier,
ces deux lois, elles sont au cœur de notre quotidien. Vous l'avez rappelé, c'est tout d'abord l'interdit de l'acharnement thérapeutique et donc la lutte contre l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que un médecin n'est pas autorisé à prescrire ou à mettre en œuvre des traitements quand ces traitements sont inutiles ou qu'ils sont disproportionnés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup trop d'effets secondaires ou de contraintes ou d'inconvénients par rapport aux bénéfices escomptés, ou alors quand ces traitements n'ont que pour seul objectif de maintenir quelqu'un en vie et de maintenir une vie biologique artificielle, alors que la personne ne serait plus en capacité de s'exprimer. Donc ça, c'est toute la question autour de l'obstination déraisonnable qui aujourd'hui est interdite par la loi depuis 2005. Vous l'avez dit aussi, c'est la question de faire valoir sa volonté lorsque on n'est pas en capacité de s'exprimer, soit par des troubles cognitifs, soit par une pathologie ou des complications neurologiques. Et là, c'est tout le champ de la prise de décision chez la personne non compétente quand se questionne la poursuite ou l'arrêt de certains traitements, notamment de suppléance vitale, justement pour ne pas générer des situations d'acharnement thérapeutique. Et là, c'est effectivement la possibilité pour la personne, lorsqu'elle est consciente et compétente, de rédiger des directives anticipées pour informer et éclairer le médecin sur ce qu'elle souhaite ou sur ce qu'elle ne souhaite pas vivre en termes de technique médicale, dans l'hypothèse où elle serait en incapacité de consentir. C'est aussi la question de la personne de confiance que l'on peut désigner pour témoigner à notre place de ce que l'on aurait souhaité ou de ce que l'on aurait refusé. Et puis, je le rappelle, c'est aussi la question de la procédure collégiale, c'est-à-dire que aujourd'hui, les décisions médicales qui concernent des patients non compétents ou en incapacité de s'exprimer ne peuvent pas être des décisions médicales qui sont prises de manière arbitraire par un seul médecin. Et la procédure collégiale nous oblige à de la pluridisciplinarité, à intégrer l'équipe de soins, à intégrer le médecin traitant, un médecin tiers en qualité de consultant. Voilà, pour prendre toujours dans un contexte d'incertitude les décisions les moins mauvaises possibles pour le patient. Et puis, là encore, en 2005 puis en 2016, deux choses. L'engagement et le devoir du médecin de soulager la personne souffrante lorsqu'elle est atteinte d'une pathologie incurable en phase notamment avancée ou terminale. Et ceci, quel que soit le prix. Et ça, les gens ne le savent pas. Et y compris les professionnels de santé. C'est ce qu'on a appelé pendant un temps la théorie du double effet, c'est-à-dire que quand l'intention est de soulager la personne et que pour soulager la personne, les thérapeutiques qu'on utilise peuvent avoir le risque d'accélérer ou d'engager le pronostic vital de la personne, nous pouvons le faire malgré tout parce que l'intention est de soulager et que l'on assume le risque que ces thérapeutiques peuvent provoquer, et on pense notamment à certains antalgiques ou à certains sédatifs.
Donc ça, c'est l'obligation de soulager la personne en fin de vie, quel que soit le prix. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur et un engagement des médecins de soulager les personnes souffrantes en fin de vie. Et puis 2016 est venu confirmer des pratiques déjà existantes qui sont ce qu'on appelle des pratiques sédatives. C'est-à-dire que quand une personne est atteinte de ce type de pathologie grave, incurable, et qu'elle est à la fin de sa vie, et notamment quand son pronostic est engagé dans les jours ou dans les heures ou les jours à venir, s'il présente une souffrance inapaisable et que l'on n'arrive pas à soulager par les moyens actuellement disponibles de la médecine, si cette souffrance lui est insupportable, alors il est en droit de demander à ce qu'on l'endorme sous une forme de sommeil ou de coma artificiel et qu'on le laisse endormi jusqu'à la survenue naturelle de son décès. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, à la demande du patient, quand il répond aux critères. Mais j'avoue que cette sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, on y a finalement, en tout cas en tant qu'acteur de soins palliatifs, assez peu fréquemment recours, parce qu'il y a d'autres pratiques sédatives, et la question des pratiques sédatives, c'était déjà en 2005, la possibilité d'endormir la personne en phase avancée ou terminale de sa maladie, quand elle présentait une souffrance insupportable à ses yeux, et que la médecine n'arrivait pas à la soulager autrement. Donc les pratiques sédatives, on pouvait déjà les mettre en œuvre, mais c'est vrai que c'était à l'initiative du médecin, et puis le patient y consentait ou pas. Le législateur en 2016, face au constat de situations encore trop souffrantes en fin de vie, a changé son fusil d'épaule et a dit ben maintenant c'est le citoyen qui va pouvoir demander aux professionnels de santé une sédation profonde et continue jusqu'au décès si jamais il répond aux critères et que le médecin ne lui a pas déjà proposé. Voilà, donc ces deux lois, en tout cas dans notre quotidien d'acteurs de soins palliatifs, elles nous permettent aujourd'hui d'accompagner et de prendre en charge la quasi-totalité des situations palliatives souffrantes en fin de vie.
Peut-être pour mettre en perspective ce que tu viens de dire, là, François, on peut aussi référer à un autre texte de loi qui a été quand même assez fondateur dans une évolution de nos pratiques médicales, qui est la loi du 4 mars 2002, voilà, dite loi Kouchner ou loi portant sur la démocratie sanitaire.
Vincent Camus.
Et qui a notamment modifié le code de la santé publique en des termes que je ne peux pas dire de tête comme ça, mais qui a finalement placé au centre de la prise de décision médicale le patient. C'est-à-dire, l'article dit bien qu'en fait, en matière de santé, c'est le patient qui, compte tenu des informations qui lui sont prodiguées par le professionnel de santé, blablabla, prend la décision concernant sa santé. Et ça, ça a été un retournement, je pense, des pratiques médicales. Et il a fallu attendre quand même, il faut le dire, la loi de 2002 pour que soit clairement énoncé. Et c'est vraiment extrêmement engageant et structurant des pratiques médicales, en fait, qui ont changé à partir de la loi du 4 mars 2002, puisque, effectivement, c'est le patient qui prend les décisions concernant sa santé. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un certain nombre de situations dans lesquelles la personne peut être empêchée dans sa capacité à prendre une décision libre et éclairée. Voilà. Et c'est là aussi où aussi les psychiatres sont intéressés à ces questions, hein, sur la question de la capacité de discernement ou la capacité à consentir, comment on peut cliniquement appréhender finalement l'altération de la capacité à consentir ou la capacité décisionnelle, en fait, indépendamment de toute mesure de protection de la personne que prendrait un juge pour protéger les intérêts d'une personne vulnérable, ce qui est quand même un fondement aussi de nos fonctionnements de nos sociétés démocratiques, encore à ce jour. Mais évidemment, cette question de la capacité décisionnelle, elle est au centre, et elle revient aujourd'hui dans le projet de loi, puisque effectivement, les promoteurs du projet de loi mettent vraiment en avant, de manière extrêmement forte, hein, bien sûr, le primat de l'autonomie du sujet. Voilà. Et je pense que personne ne le contesterait. Tout le monde a reconnu l'apport, je dirais, de la loi du 4 mars 2002 qui a enlevé une partie du pouvoir que s'étaient arrogé d'ailleurs les professionnels de santé en matière de décision médicale, hein, des sachants contre, je dirais, le patient, hein, censé mettre en œuvre ce que le sachant lui prescrit. Donc évidemment, personne ne contestera l'évolution très favorable et l'impact que ça a eu sur les pratiques médicales, et on l'explique tous les jours aux étudiants. Voilà, et on en fait cette pédagogie au quotidien tout au long des études de médecine, notamment des professionnels de santé. Ceci étant posé, évidemment, la diversité des situations cliniques doit nous faire reconnaître qu'il y a des situations dans lesquelles l'exercice de la libre autonomie de décision, elle peut être sensiblement altérée ou entravée. Elle peut l'être par, comme l'a dit François tout à l'heure, des pathologies neurologiques, si vous êtes dans le coma, etc., vous n'avez plus de possibilité de vous exprimer oralement ou par écrit, mais peut être aussi altéré par des symptômes psychiques, d'anxiété, de dépression. On sait qu'il y a des situations de stress ou des pathologies mentales qui vont altérer, je dirais, les fonctions de raisonnement. Elles vont les modifier sensiblement, de fait que les gens ne vont plus tout à fait prendre des décisions de la même façon qu'ils les faisaient quand ils n'étaient pas malades, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, effectivement, et un certain nombre de d'éthiciens qui ont réfléchi un peu sur ces questions, hein, sur la question de la décision. Évidemment, le principe, c'est la décision autonome du sujet. Comme on anticipe que le sujet pourrait être, à un moment donné, empêché dans sa propre prise de décision, le législateur a pensé à un dispositif qui n'est pas absurde du tout, qui est la décision anticipée. Je dis à l'avance ce que je voudrais pour moi. C'est un peu le principe des directives anticipées. Et puis, le législateur a prévu aussi un autre dispositif qui est, en fait, un dispositif, on pourrait dire, de décision substituée, ce que j'appellerais une décision substituée. C'est-à-dire que la personne est empêchée, c'est quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas tout à fait une décision substituée, hein, mais qui va être capable de dire ce qu'elle pense, qu'aurait été la position de la personne si elle avait été en capacité de décider. Voilà. Au regard de ce qu'on connaît, de ce qu'elle a toujours été, des souhaits qu'elle a toujours exprimés, des valeurs qui étaient les siennes, etc., etc. Et une forme comme ça de délégation de la décision qui se justifie par le fait que, et notamment c'est tout l'intérêt de la personne de confiance, hein, c'est justement que la personne de confiance soit une personne qui connaisse bien la personne, puisqu'à un moment donné elle va être en capacité ou elle va être invitée à dire ce qu'elle pense qu'aurait été la position de la personne si elle avait été en capacité de... Voilà. Et puis il y a d'autres situations de décision substituée, mais ça, c'est vraiment très exceptionnel, ça concerne la psychiatrie, hein, c'est vraiment... l'exception de soins psychiatriques pour des pathologies, enfin ponctuellement pour des pathologies très graves, pour lesquelles on va se passer du consentement de la personne, parce que la maladie altère tellement les capacités décisionnelles qu'on doit, pour protéger la personne et sur une durée extrêmement limitée, décider à sa place. Ça, c'est un cas tout à fait exceptionnel et qui est moins en rapport avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mais par contre, la question, finalement, de l'expression de l'autonomie du sujet est une question... qui n'est pas si simple, en fait, voilà, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'on peut avoir une autonomie de décision qui peut être entravée dans certaines situations, et que par ailleurs, on sait, nous, du travail qu'on fait auprès, par exemple, des personnes qui ont fait un geste suicidaire, qu'on peut avoir une position à un moment donné, mais qu'on peut aussi changer de position au cours du temps, notamment en fonction... du niveau de soutien, d'aide, d'accompagnement qu'on peut trouver. D'ailleurs, toutes les stratégies d'intervention et de prévention du suicide reposent beaucoup là-dessus, en fait. Et il n'est pas rare que quand on interroge une personne qui a, par exemple, commis un geste suicidaire, elle nous dise, a posteriori, « Mais non, mais je ne voulais pas mourir, en fait. Mais j'ai été débordé, c'était trop insupportable. » Et pourtant, des personnes qui, bon, même s'il peut y avoir une dimension impulsive de leur geste suicidaire, peuvent avoir aussi... anticiper la réalisation de ce geste, voilà. Et en ce sens, je pense que les débats tels qu'ils sont engagés aujourd'hui, disons, passent un peu sous silence cette réalité-là, alors qu'il ne s'agit pas du tout de contester hein, le primat de l'autonomie de la décision du sujet, mais, me semble-t-il, passe un peu sous silence, ne veut pas trop voir cette réalité-là, de la nuance que peut-être, d'ailleurs, les lois sur la fin de vie existantes avaient plutôt adressé de manière assez, assez adroite et assez subtile, en fait.
Après, pour compléter sur cette question d'autonomie, c'est vrai que dans le discours politique ou dans le discours médiatique, on a pu faire passer le message, ou en tout cas, on peut encore faire passer le message que finalement, l'attente du citoyen, ce serait de pouvoir maîtriser le cours de son existence, et sous prétexte d'un principe éthique d'autonomie qui serait un principe quasiment numéro un, la loi dite Falorni viendrait répondre à une demande du citoyen voilà, de décider du cours de son existence et puis de décider du moment de sa mort. Je crois que cette approche-là, elle est incorrecte. C'est-à-dire que, alors, je ne conteste pas que ça puisse être l'aspiration de certains de nos concitoyens, mais en tout cas telle qu'elle est pensée aujourd'hui, la loi qui a été votée en première lecture en mai dernier, elle est censée être une réponse aux situations de grande souffrance chez des patients qui n'ont pas leur pronostic vital engagé à court terme et qui pour autant souffrent de manière insupportable et ne relèveraient pas d'indication de sédation profonde et continue ou de pratique sédative parce que leur pronostic ne serait pas engagé à court terme et que donc pour soulager ou en tout cas pour répondre, je ne sais pas si ça soulage, mais en tout cas pour répondre à une souffrance insupportable, qu'elle soit physique ou psychique, en lien avec une maladie grave, incurable et engageant le pronostic vital, on autoriserait une mort provoquée par assistance au suicide ou à défaut euthanasie. Donc ce n'est pas « je décide du moment où je vais mourir », c'est « je me sais malade d'une maladie grave, incurable », dont je vais mourir à moyen, court ou long terme. Je souffre aujourd'hui d'une manière qui n'est pas apaisable autrement que par des traitements qui ne me soulagent pas assez. Et donc, en réponse à cette souffrance, j'envisage de mettre fin à mes jours. Mais donc, il y a deux portes d'entrée dans la lecture de ce texte de loi. C'est le prisme de la souffrance ou le prisme de l'autonomie ou de la liberté individuelle. Mais je crois qu'on n'est pas sur le même, on n'est pas tout à fait sur le même champ.
Et peut-être pour revenir aussi à la dernière partie de votre question, qui est un peu piège, hein, pourquoi cette nouvelle loi finalement ? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit nous qui pouvons répondre à ça. Hein. Je pense que c'est plutôt le législateur, le président de la République aussi, hein, parce que cette loi est venue dans la continuité de position qu'il a faite. Alors, comme disait un de mes vieux maîtres en médecine, il y a des questions, si on ne veut pas les réponses, il ne faut pas les poser. Bon, lui, il a posé la question et il a eu la réponse. Donc, il était engagé. Pour des motivations qui lui sont propres, certainement aussi un peu politiques et politiciennes. Bon, on en est là aujourd'hui. Maintenant, pourquoi ce débat continue à être présent au point de faire l'objet d'une nouvelle loi ? Il y a plusieurs éléments de réponse, de mon point de vue. Il y a d'abord des groupes de pression très bien constitués qui défendent ce modèle pour des raisons qui leur sont propres, c'est tout à fait leur droit. Voilà. Alors, moi, il me semble que ça repose un peu quand même sur une certaine supercherie, notamment... au regard d'une association de promotion pour mourir dans la dignité, dont le seul, je dirais, positionnement est un positionnement en faveur de l'aide à mourir. Alors que, au quotidien, j'imagine que François Chaumier, c'est ce qu'il fait tous les jours, d'aider les gens à mourir dans la dignité. Et que laisser entendre que la seule façon de mourir dans la dignité serait la mort provoquée, maîtrisée, etc., c'est une supercherie intellectuelle. Je crois qu'il faut le dire. Voilà. Voilà. Pour autant, ceci étant dit, je pense que si, malgré tout, au-delà de cet acteur-là qui est important, qui travaille ces questions, qui fait du lobbying depuis de nombreuses années, mais à lui seul ne peut pas suffire à amener l'évolution des choses où elles en sont aujourd'hui, et vient interroger, évidemment, notamment, et questionner les pratiques médicales. Et je pense qu'effectivement, ce qu'ont dit probablement les citoyens à travers... les espaces de prise de parole, conventions citoyennes, etc., tous les sondages qu'on peut faire, etc. Voilà, ce qu'ils disent, en fait, et c'est assez légitime, c'est quand même une réelle inquiétude sur la capacité de notre système de soins à vraiment entendre leur parole au moment où ils auraient à la prononcer. Et ça, c'est un point qu'on avait identifié déjà depuis très longtemps, c'est-à-dire que un des enjeux majeurs, et c'est ce qu'on aurait nous souhaité d'ailleurs porter devant la commission parlementaire, mais qui ne nous a pas reçus, on n'a pas pu leur expliquer, mais effectivement, on est très conscient qu'il y a des enjeux majeurs de formation des professionnels de santé à la pratique de la prise de décision, à la prise en considération de la parole du patient, à la construction des parcours de soins qui sont très liés au mode d'organisation, voilà, de notre système de santé, voilà. Probablement, les questions ne se posent pas tout à fait les mêmes dans notre hôpital public, dans certains parcours de soins libéraux, etc. Où, évidemment, pour mieux répondre aux aspirations légitimes de la population en cette matière, évidemment, il y a un niveau de compétence, tellement technique à la conduite de tel geste chirurgical ou de la mise en place de telle chimiothérapie, mais de construction des parcours, de prise en compte de la parole du patient, de ses proches, de construction d'une décision partagée, ben là, effectivement, on a des efforts et des marges de progression majeures à faire. Mais comme on fait le constat de notre insuffisance, plutôt que de dire « on va investir pour améliorer les pratiques », on change le cadre de la loi et on change complètement de paradigme sans en mesurer, me semble-t-il, vraiment les conséquences à l'avenir, ni pour ceux qui en font la promotion aujourd'hui, ni pour les professionnels, ni pour les patients demain. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce que disent aujourd'hui quand même certains des collègues et même de citoyens de pays qui ont connu cette évolution légale avant nous. Je pense que la situation n'est pas aussi rose et idéale qu'on veut bien nous la présenter aujourd'hui.
Je rejoins tout à fait ce que dit Vincent. Je pense que la parole de nos concitoyens, il faut l'entendre. Je pense qu'il y a une partie de nos concitoyens qui milite pour le droit à disposer de sa vie, de son corps et de maîtriser le cours de son existence. Et ça se respecte en termes de position individuelle. Il y a une grande majorité aussi de nos concitoyens pour qui cette question d'aide à mourir sous la forme d'une assistance au suicide ou d'une euthanasie, elle vient répondre à une angoisse de souffrir en fin de vie et que les professionnels de santé et notre système de santé ne puissent pas répondre à leur souffrance en fin de vie. Ce en quoi ils n'ont pas forcément tort quand on voit l'état actuel de notre système de santé, notamment des ressources en termes hospitalières et ambulatoires, et notamment en ce qui concerne les ressources en structure et en équipe spécialisée de soins palliatifs. Je pense notamment aux milieux ruraux, je pense notamment aux déserts médicaux où il sera peut-être plus facile d'accéder à une aide à mourir qu'à un médecin généraliste. Je pense aux EHPAD, je pense au monde du handicap.